Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et à Rome. Notre édition spéciale consacrée au décès du pape François se poursuit tout de suite dans Afrique Midi. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. La mort du pape qui provoque une avalanche de réactions aussi en Afrique. François avait effectué 5 visites sur le continent. Et s'était rendu dans une dizaine de pays. Son dernier voyage africain il y a 2 ans l'avait conduit à Kinshasa et à Juba, où il laisse, on le verra, un souvenir très fort. Argentin de nationalité, premier pape du Sud, il s'était illustré par un certain réformisme, parfois critiqué avec virulence, mais aussi par son écoute des plus pauvres et des marginalisés. Réaction et analyse avec nos correspondants et nos invités, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque de N'Djamena, et le père Arsène Brice Badeau, professeur en sciences politiques à l'Université jésuite d'Abidjan. Édition spéciale d'Afrique Midi jusqu'à 15h, heure de Paris.
Édition spéciale sur RFI.
C'est donc un sentiment de stupeur qui a saisi ce matin les catholiques du monde entier. Vers 10h, quand le Vatican a annoncé la mort du pape François, le souverain pontife, âgé de 88 ans, était bien sûr malade et très affaibli. Mais hier, à l'occasion des célébrations de Pâques, il s'était offert un bain de foule en papa mobile au milieu des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome. Le pape François avait pris la tête de l'Église catholique en 2013. Tout au long de son pontificat, il aura incarné une ligne réformiste. Il aura fait preuve de franc-parler et il aura voulu placer la dignité des exclus au centre de son message. Il aura été notamment un défenseur des migrants, estimant que les repoussés étaient un péché grave, comme en mars 2019 à Rabat, lors d'une visite au Maroc.
Il s'agit d'un phénomène qui ne trouvera jamais de solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour leur famille. Nous savons aussi que la consolidation d'une véritable paix passe par la recherche de la justice sociale, indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les désordres politiques qui ont toujours été des facteurs principaux de tension et de menace pour l'humanité tout entière.
Le pape François en 2019 au Maroc, premier pape du Sud. François aura effectué durant son pontificat en tout 5 voyages sur le continent africain. Le dernier en date en 2023 l'aura conduit en République démocratique du Congo puis au Soudan du Sud. À Kinshasa, il avait littéralement mobilisé les foules et ce matin des fidèles se sont rassemblés à la cathédrale Notre-Dame du Congo.
Bon, en tant que catholique, je suis triste parce que nous avons perdu quand même notre chef. Et puis, je suis vraiment triste.
Il a fait son travail comme il fallait. D'ailleurs, moi, j'ai connu Pape lorsqu'il était venu ici. Mais c'était plaisir pour moi de connaître Pape ici en RDC.
Quand j'ai vu ça sur France 24, la première des choses qui m'est arrivée, j'ai vu le jour où il est venu à Kinshasa. Et quand il était venu, il n'était pas venu voir le Congo. Par rapport à ses sentiments, il était venu voir les pauvres qui sont au Congo. Mais il s'est dit, je dois aller d'abord sur ces terres-là, voir ce qui se passe.
Pauline Azidi, vous êtes en direct de Kinshasa, où le souvenir du voyage du pape François en janvier 2023 reste, on l'entend, extrêmement fort.
Oui, effectivement, tous les Congolais interrogés ce matin à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa rappelaient ce moment qu'ils qualifient souvent d'historique. Lors de ce déplacement, le pape François était resté dans la capitale, mais avec un très grand temps fort. Cette grande messe à l'aéroport de Ndolo, au centre de la ville, on dit que près d'1 million de personnes étaient présentes. Il avait aussi rencontré des victimes du conflit à l'est du pays, zone où, en raison de la situation sécuritaire, il n'avait pas pu se rendre. une guerre qu'il n'a jamais oubliée dans ses différentes prises de parole. Il appelait régulièrement au retour de la paix, faisait part de son inquiétude, de sa douleur concernant la situation dans cette partie du pays. Et ce sont ces rappels réguliers que retiennent les catholiques congolais, eux qui ont souvent l'impression que ce conflit passe au second plan sur la scène internationale. Alors ici, c'est un lundi de Pâques un peu particulier puisqu'il n'est pas férié. Les fidèles se retrouveront plus en fin de journée pour des moments de recueillement. L'abbé Camille Essika, le recteur de la cathédrale Notre-Dame du Congo, me confiait que dès l'annonce, ils avaient annulé tous les événements festifs et que les temps de prière seraient désormais tournés vers le pape François.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. Kinshasa où le président Tshisekedi salue dans un communiqué l'engagement indéfectible du pape pour la paix, la justice et la dignité et rappelle les paroles prononcées par François lors de sa visite au Congo. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC. Un appel puissant, dit le président Tshisekedi, à la justice et à la souveraineté. L'émotion aussi ce matin au Soudan du Sud, le tout dernier pays africain visité par le pape François. Il y avait notamment rencontré le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Sa visite et ses messages avaient ravivé les espoirs d'une avancée vers la paix. Des espoirs aujourd'hui déçus puisque les combats ont repris depuis plusieurs semaines. Florence Mietto, vous êtes la correspondante de RFI à Djouba. Le souverain pontife s'est beaucoup impliqué tout au long de son pontificat dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018 pour mettre fin à la guerre civile.
Oui, on peut le dire. Et c'est l'image du pape François à genoux, embrassant les pieds de Salva Kiir et de Riek Machar, qui résume sans doute le mieux son engagement en faveur de la réconciliation au Soudan du Sud. Cette scène s'est déroulée au Vatican en avril 2019, lorsque les dirigeants sud-soudanais avaient été conviés à une retraite spirituelle. Ils s'apprêtaient alors à former un gouvernement d'unité et de transition. Dès 2017, François avait exprimé le souhait de se rendre au Soudan du Sud. Une visite qui s'est donc déroulée en février 2023 et qui a attiré plus d'un million de fidèles à Djouba. Le pape avait notamment demandé aux dirigeants du pays de changer de direction. Assez de sang versé, leur avait-il lancé, les invitant à s'engager sur le chemin tortueux de la paix, des demandes qui n'ont pas réussi à empêcher le retour de la violence. Mi-mars, alors que des affrontements armés avaient lieu dans le nord-est du pays, le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, a envoyé une lettre à Salva Kiir et à Riek Machar, les invitant à dialoguer. Un appel qui n'a pas empêché le président Salva Kiir de placer Riek Machar en résidence surveillée le 26 mars et de poursuivre les assauts militaires. Aujourd'hui, l'annonce de la mort de François est un choc pour de nombreux Sud-Soudanais. On se souvient de ce geste, de ses paroles, d'autant que le pays est menacé de sombrer à nouveau dans la guerre civile.
Florence Mietto, correspondante de RFI à Djouba. Beaucoup d'émotions également en Centrafrique, où le pape s'était rendu en novembre 2015, 10 ans après, de nombreux Bangui-sois se souviennent encore des moments forts de sa visite. Le coup d'état de la coalition Séléka contre l'ancien président Bozizé 2 ans auparavant avait plongé le pays dans une crise sans précédent et la venue du pape avait suscité un immense espoir de paix et de réconciliation. Rolf Steve Domialeux, vous êtes en ligne de Bangui où les fidèles catholiques affluent ce matin à la cathédrale.
Oui, Nicolas, près d'un millier de personnes sont actuellement réunies ici à la cathédrale Immaculée Conception de Bangui. Certains sont à l'intérieur de l'église, d'autres ont pris place sur des bancs et des chaises installées dans la vaste concession de la cathédrale. Devant la grotte de prière qui se trouve ici, plusieurs centaines de bougies sont allumées. Chacun élève à sa manière des prières pour se souvenir du souverain pontife. Ici, tout le monde a en tête la visite du pape François en novembre 2015 à Bangui. Le pays était déchiré par des violences interreligieuses entre miliciens séléka majoritairement musulmans et anti-Balaka à majorité chrétien. C'est dans ce contexte très tendu que le pape François a effectué cette visite à Bangui en novembre 2015, un acte de bravoure pour les Centrafricains. D'abord, il a visité le plus grand site des déplacés de l'aéroport international de Bangui, le plus grand de la capitale où sont assis plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il s'est même rendu dans le quartier populaire du PK5, un quartier majoritairement musulman. Au temps fort de la crise, aucun centrafricain non musulman ne pouvait pénétrer dans ce quartier. Mais le pape François s'y est rendu, drainant derrière lui des milliers de chrétiens jusqu'à la mosquée centrale où il a lancé un puissant message de réconciliation et du vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est donc ce message que tout le monde garde en mémoire. Les fidèles ont l'espoir de tourner définitivement les cycles de violence qui ont plongé le pays dans le chaos.
Rolf Steve Domialeux, correspondant de RFI à Bangui. Beaucoup de réactions dans toute l'Afrique après l'annonce de la mort du pape Alexandra Branjon, dont l'hommage appuyé ce matin de l'Union africaine.
Oui, l'Union africaine qui salue un avocat inébranlable de la paix qui a eu un engagement courageux sur le continent, écrit le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, pour qui le pape François a amplifié les voix de ceux qui n'en ont pas et s'est montré solidaire de ceux touchés par les conflits et la pauvreté. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed salue l'héritage de compassion, d'humilité et de service à l'humanité du pape François qui s'était inquiété il y a quelques années du conflit dans la région du Tigré. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui lui évoque son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions.
Et une réaction aussi, Alexandra, du président burundais Evariste Ndayishimiye.
Oui, ce fidèle de l'église catholique qui, sur X, rappelle le message de foi et d'humanité du pape François. Un message qui restera une source d'inspiration, a réagi le président gabonais Oligui Nguema, également fervent catholique. Pour le président kényan William Ruto, le pape François a donné l'exemple d'un leadership au service des autres par son humilité et sa profonde compassion pour les pauvres. Et enfin, sa mort fait perdre au monde sa voix la plus incisive pour la justice et l'action contre le changement climatique, rappelle le président du Nigeria, Bola Tinubu.
Au cours de son pontificat, on l'a dit, le pape a voyagé 5 fois en Afrique où il a visité 10 pays. Des visites qui ont été des moments forts pour aborder les thèmes qui lui étaient chers, Clotilde Hazard, l'accueil des migrants, la dénonciation de la corruption, du colonialisme économique, mais surtout le dialogue entre les religions.
Oui, c'est vraiment ce qui ressort le plus de ces différentes visites en Afrique, la volonté de favoriser le dialogue interreligieux, en particulier lors de sa visite en 2015 en Centrafrique, on l'a entendu. À ce moment-là, des violences font rage entre musulmans et chrétiens. Le pape y visite alors une mosquée à Bangui et des scènes d'accolade entre les membres des différentes communautés religieuse y avait été un symbole d'espoir très fort. Plus tard aussi, en 2017, il visite l'Égypte et la plus vieille université islamique, Al-Azhar, et signe en 2019 un traité avec le grand imam Ahmad El-Tayeb pour poser le socle du dialogue entre chrétiens et musulmans et réaffirmer qu'on ne peut utiliser le nom de Dieu pour faire la guerre.
Des décisions du pape ont aussi suscité des critiques et des tensions avec le continent africain.
Oui, c'est le cas avec la déclaration du 18 décembre 2023 qui permet aux prêtres de bénir les couples homosexuels. Cela a provoqué de vives réactions, puis le refus de l'Église africaine d'appliquer cette mesure. Mais ces tensions n'ont pas éclipsé l'engagement du pape pour l'Afrique. En 2023, lors de son dernier voyage sur le continent, le pape dénonçait le colonialisme économique en RDC qu'il disait victime du pillage de ses ressources. Il voulait alors, je cite, que l'Afrique compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations.
On est à présent en ligne avec Monseigneur Donatien Ncholet, le secrétaire général de la Conférence épiscopale de la République démocratique du Congo. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RFI. Qu'avez-vous ressenti en apprenant ce matin la mort du pape François ?
C'était vraiment tout en sachant qu'il était malade. En le voyant se manifester à la basilique, à la place Saint-Pierre, c'était pour moi une lueur d'espoir. Et le matin, on s'est réveillé avec la triste nouvelle. C'était avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu cette nouvelle, d'autant plus que c'était un pape très particulier pour l'Église de la RDC.
Oui, le pape a effectué sa dernière visite africaine au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo fin janvier 2023 à Kinshasa. Cette messe immense à l'aéroport de Ndolo et des paroles très fortes contre la prédation des ressources, le colonialisme économique et la corruption. Ce discours a-t-il eu un impact ?
Eh bien, je crois que c'est difficile d'évaluer, mais ce message a été écouté. Il est vrai que nous avons eu comme Église du Congo, dans un autre contexte, faire un peu le tour du monde pour attirer l'attention des uns des autres sur la situation de la RDC. On a aussi cette impression que, s'ils sont sincères, nos interlocuteurs, ils veulent quand même une République démocratique du Congo beaucoup plus libre pour mieux se déterminer. Est-ce une influence, des influences de l'adresse du pape? C'est possible, mais le plus important, c'est qu'il a parlé, il a été écouté, et c'est à nous de répéter sans cesse ce qu'il a dit pour que le résultat soit palpable.
Cette visite en janvier 2023, Monseigneur Ntcholé, ça avait été tout de même un signe très fort hein, envers l'Église du Congo dans les problèmes que vous pouvez avoir vis-à-vis du pouvoir. Est-ce que ça a compté pour vous, ça vous a servi cette venue et ces messages du pape?
Et bien sûr, la visite du pape était une occasion de renforcer la cohésion entre l'Église et le pouvoir. Nous avions travaillé comme Église main dans la main avec le pouvoir pour recevoir le pape, pas seulement avec le pouvoir, mais c'est toute la communauté nationale qui y était impliquée. C'était l'occasion pour lui de s'adresser aussi aux autorités politiques. C'était l'occasion pour lui d'interpeller aussi l'Église qui devrait être recentrée sur l'essentiel sans oublier sa mission prophétique. C'était l'occasion pour lui de saluer les efforts de leurs excellences, le cardinal Monsengo, Monseigneur Muziriwa, comme pour dire aux évêques que voilà, il faut continuer dans cette direction-là. Mais comme vous le savez, la relation entre les prophètes et l'État, le pouvoir, c'est toujours à dents de scie. C'est ce que nous continuons à expérimenter.
Il y a eu aussi des tensions entre l'Église catholique africaine et notamment de RDC et le pape. On se souvient, après la publication de la déclaration Fiducia Supplicans qui ouvrait la voie aux bénédictions de couples de même sexe, de la réaction vive du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Est-ce que vous diriez que le pape était allé trop loin avec cette déclaration?
Je ne parlerai pas en termes de tension, mais le cardinal, à travers lui, tout.
Monseigneur Ntcholé, est-ce que vous nous entendez?
L'Église d'Afrique s'est exprimée, la dimension culturelle de la foi en Afrique. Et le plus important, d'ailleurs, même quand le cardinal a parlé, c'était tout en comprenant la pertinence de ce que le Saint-Père disait, et il lui demandait de tenir aussi compte de notre culture. C'est la suite qui nous importe, c'est que le Saint-Père a été très ouvert à la perception africaine de cette réalité ecclésiale, et c'est comme ça que l'Église devrait fonctionner.
Oui, c'est-à-dire que le pape avait fini par expliquer que ses recommandations devaient tenir compte des différences culturelles et notamment devaient être appliquées avec prudence et parcimonie dans certains pays, notamment ceux où l'homosexualité était interdite.
Exactement, exactement.
Monseigneur Ntcholé, le pape est mort, un nouveau pape va être élu dans les semaines qui viennent par le collège cardinalis. Parmi les noms qui sont cités régulièrement pour devenir le nouveau pape, il y a le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Est-ce que pour vous, il est temps qu'un Africain soit nommé chef de l'Église catholique?
Nous sommes en deuil et laissons l'Esprit Saint faire son travail. Nous ne sommes pas en politique, il n'y a pas de quota. Tout ce que nous sommes appelés à faire comme chrétiens, comme prêtres, c'est prier pour que le prochain pape, quelles qu'il soit ses origines, soit un pasteur selon le cœur de Dieu.
Merci Monseigneur Ntcholé, merci beaucoup de vous être rendu disponible en direct de Kinshasa. Et nous retrouvons à présent l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Les évêques du Tchad, hein, dont vous-même aviez été reçu par le pape au Vatican septembre 2023, quels souvenirs en gardez-vous?
Ben, je garde surtout le souvenir d'un pape très aimable, ouvert, qui nous a pas reçus derrière le bureau dans une salle d'audience, mais autour d'une petite table, assis tous ensemble comme dans une conversation familiale. Et cela nous a rassurés, nous a mis à l'aise pour pouvoir exprimer de tout cœur ce que nous avions à partager avec le pape. Cela nous a fait beaucoup de bien.
De tous les messages que le pape aura portés pendant les 12 ans de son pontificat, quel est celui qui vous semble le plus important?
Ben, pour mon pays, le Tchad, c'est surtout la déclaration du Caire sur la fraternité universelle et bien sûr sur sa première lettre encyclique, un peu sur l'écologie, sur Laudato si, et cela pour les pays de sécheresse et de désert comme le nôtre. Nous sommes vraiment très sensibles à tous ces deux discours-là qui font que nous avons adhéré pleinement à cette déclaration du pape et nous essayons autant que possible d'en suivre les enseignements.
Oui, le Tchad est un pays où les catholiques sont minoritaires. Je crois qu'on dit qu'ils représentent 20% de la population. Est-ce que la parole du pape était écoutée aussi par les autres religions, Monseigneur?
Je crois que les autres nous envient un peu d'avoir une autorité qui parle et qui dit une parole pour tout le monde et qui ne vaut pas seulement pour les chrétiens catholiques, mais qui s'adresse aussi à tout l'univers. Et je crois que petit à petit, la sympathie que les communautés non catholiques portent à ce pape-là nous oblige à encore plus d'attention pour tout ce que le pape nous enseigne parce que il n'a évité aucun sujet ses discours dans les Angélus du dimanche. Il a abordé tous les problèmes que vit notre humanité et cela touche tout le monde, sans exception.
Merci, Monseigneur Edmond Gitangar, archevêque de N'Djamena. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. De l'émotion au Tchad, on l'entend. Beaucoup d'émotions aussi ce matin au Kenya, où 80% de la population est chrétienne. Le pape François avait démarré dans ce pays sa toute première visite africaine en novembre 2015. Il avait alors célébré une messe à Kangemi, l'un des bidonvilles de Nairobi. 10 ans plus tard, à Kangemi, le souvenir de son passé reste très fort, Gaël Lalex.
Père Beatus Mauki est le prêtre de Saint-Jean le Travailleur. Ce 27 novembre 2015, il n'était pas en charge de la paroisse, mais se souvient parfaitement de ce jour.
Et c'est là que se tenait le pape et qu'il a prêché pour une juste distribution des richesses. Le pape nous a envoyé un message, chacun mérite des services de base, c'était très important.
C'est grâce à Peter Magou, banquier à la retraite, que le pape François est venu à Kangemi. Quand il a appris que le souverain pontife se déplacerait au Kenya, il lui a tout simplement écrit une lettre d'invitation.
Un jour, le prêtre reçoit un appel et on lui dit « On a une bonne nouvelle, le pape vient vous voir ». J'ai dit « Waouh, c'est un miracle !»
Lucy Nganga fait partie des rares heureux qui se trouvaient dans l'église avec le pape.
J'ai personnellement salué le pape, j'ai touché ses mains, j'étais folle de joie. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça. Il s'est présenté comme le pape des pauvres et expliqué que c'était pour ça qu'il avait choisi cette église.
Un prêche qui résonne encore dans le cœur de Teresa Siouaï, présente ce jour-là.
Il a choisi de venir dans le ghetto. On ne voit des gens importants ici que quand ils cherchent des votes. Donc, que le pape vienne à Kangemi, voir comment on vit et faire partie de notre communauté, même pour une heure seulement, c'était un honneur. On s'est senti humain.
Aujourd'hui, l'église de Saint-Jean le Travailleur accueille plus de 10 000 fidèles. À Nairobi, on la surnomme le Vatican. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Et nous sommes en ligne à présent avec le père Arsène Brice Badeau, professeur en sciences politiques à l'université jésuite d'Abidjan et directeur du Centre de recherche et d'action pour la paix. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Premier pape du Sud, pape des pauvres, pape des migrants, mais aussi pape réformiste, parfois critiqué avec virulence. Au final, est-ce que le pape François aura été un pape populaire en Afrique ?
Oui, sans doute, il a vraiment été, sans aucun doute, il a vraiment été un pape très populaire en Afrique à travers d'abord les thématiques qu'il a abordées, comme cela a déjà été souligné, la question justement du pillage des ressources, de l'exploitation économique, de la corruption, du dialogue interreligieux, et de la question de la migration, de la paix, de la réconciliation, ce sont des thématiques qui ont parlé au cœur des Africains. Et puis, il y avait aussi son style personnel aussi, qui a vraiment touché à les Africains. Voyez-vous, depuis son élection jusqu'à son décès, c'était le pape qui était proche de la population. Il était toujours engagé avec la population. C'était quelqu'un, par exemple, qui terminait ses discours en deux mandats compris pour lui. Donc, c'était quelqu'un qui a représenté une figure d'un pasteur qui n'est pas autoritaire, mais qui est plutôt au sein de son peuple, qui marche avec son peuple, qui discerne avec son peuple. Donc, cette proximité a fait qu'il a eu vraiment beaucoup de succès en Afrique.
On dit que la volonté réformatrice du pape s'est heurtée à beaucoup de conservatifs dans les églises, et notamment dans les églises d'Afrique, quand il avait ouvert la voie à une bénédiction des couples gays. Cette indignation, il ne l'avait pas vu venir?
Je pense que il faut peut-être repréciser les choses. D'abord, le pape François lui-même a très souvent invité les églises d'Afrique à contextualiser l'évangile et à se dépouiller de certains caractères occidentaux du catholicisme. Et dans cette perspective-là, il valorisait les cultures. Et donc, ça n'a pas été étonnant pour moi lorsque la déclaration Fiducia Supplicans est arrivée et que les évêques africains n'ont pas accueilli. On trouvait que c'était une préoccupation un peu loin de la culture africaine. Je crois qu'ils sont même appuyés sur l'invitation du pape à l'inculturation, à accueillir, à valoriser la culture sur place. Et d'ailleurs, la réaction du pape aux réponses des églises d'Afrique était très compréhensible. Voyez-vous, il n'y a pas eu de bras de fer. Ce qui montre que c'était vraiment, le pape accepte que les églises locales puissent avoir des perspectives différentes.
On l'a vu aussi très attentif tout au long de son pontificat à des conflits comme ceux qui ravagent la RDC et le Soudan du Sud. Au-delà des mots, est-ce que le pape François a une diplomatie réellement active sur ces terrains de conflit?
Oui, honnêtement, on peut dire franchement que le pape François a été l'un des papes les plus actifs diplomatiquement sur le continent africain dans la question de la résolution des conflits en Afrique. Comme vous l'avez déjà cité, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, comme en RDC, et aussi à travers ses discours, il a vraiment essayé de pousser pour la paix, même parfois en se mettant à dos à la communauté internationale, parce que justement, il n'hésite pas à critiquer la communauté internationale ou les firmes internationales sur leur part de responsabilité dans ces conflits-là. Parfois, c'était étonnant de la part d'un pape d'être aussi direct que cela. Et donc, on peut considérer franchement que le pape François a été un avocat pour l'Afrique, pour la question de la paix et de la réconciliation.
Merci Père Arsène Brice-Badaud. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université jésuite d'Abidjan. 14h59 à Paris. Restez avec nous sur RFI, notre édition spéciale consacrée à la mort du pape François se poursuit. Dans une minute sur RFI, rendez-vous de Haïti et des Amériques entièrement consacré à la disparition du pape François.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, les maladies chroniques sont souvent vécues comme un fardeau pour les patients. Comment la psychiatrie peut aider à mieux vivre cette épreuve? Mercredi, la présence de substances dans les eaux usées liées à la consommation de médicaments fait l'objet de surveillance. Comment évaluer ces risques sur l'environnement?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI. Le prix théâtre RFI.
C'est le moment pour participer à sa 12e édition. Vous êtes auteur ou autrice, vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient. Envoyez vos textes avant le samedi 3 mai minuit à l'adresse suivante prix.théâtre@rfi.fr.
En partenariat avec la SACD, l'Institut français, les francophonies des écritures à la scène, Théâtre ouvert, le CDN de Normandie-Rouen et la Villa d'Art à Saint-Louis du Sénégal.